tellement profond, les limites de la manière dont notre être, je dis bien l'être, attention, la substance se réalise en nous. Et on va voir à partir de là, on va déterminer à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé dans notre origine, quand nous avons commencé d'exister, n'est-ce pas ? Et comment d'un seul coup, ayant vécu de l'un, vitalement, corporellement, physiquement, métaphysiquement, religieusement, génialement, lumineusement, en plénitude, d'un seul coup nous sommes retrouvés dans la potentialité de la multiplicité de notre être. Et en fonction de notre réaction passive dans notre liberté d'origine, un pli va se prendre et c'est l'origine du pli actuel de notre humanité. On est plus dans cette direction-là parce qu'il y a eu un choix initial dans notre origine. Et c'est ça qu'on va regarder tout à l'heure. On continue. Vous avez les sept grandes dimensions de l'homme. Ces sept dimensions de l'homme, se sont pour ainsi dire déployées à un moment donné, à partir d'un moment donné. Et ils se sont déployés à partir d'un moment donné, à partir de l'un en nous. Vous voyez, c'est cette dimension. Nous sommes à la recherche de l'un. Pourquoi sommes-nous à la recherche de l'un? C'est parce que le goût de l'un, la saveur de l'un, nous a été donné au départ au niveau originel, dans notre premier moment d'existence, dans notre première vie, dans notre premier corps, dans notre première vitalité, dans notre première intelligence, dans notre première lumière, dans notre premier amour, dans notre première plénitude. Vous voyez ? Alors, à cause de quoi ? C'est à cause de cela. C'est à cause de cela que nous avons cette espèce de saveur de là. Nous sommes originés dans là. Et nous savons très bien, alors c'est à cause de ça qu'on fait cette petite recherche là, ici, sur l'éclatement de l'un à partir de notre origine. C'est bien évident que dans notre origine, peu importe, je ne rentre pas ici dans la discussion que vous connaissez, cette fameuse discussion par laquelle on se dit, est-ce que nous existons, nous avons commencé d'exister, corps, beauté, splendeur, esprit, vie, âme, lien avec père, mère, communauté, famille, lien avec le Créateur et amour, est-ce que nous avons été créés? Est-ce que nous étions qu'une première cellule? Est-ce qu'il y en avait trois? Est-ce que c'était... Je ne rentre pas dans cette discussion-là. C'est pas ça que je regarde. Que ce soit... c'est vrai que je préfère, c'est plus commode, de penser que c'est la première cellule. C'est beaucoup plus facile. Parce que comme ça, on ne se dit pas, tiens, il y avait un petit bout de cerveau, il y avait un petit bout de cœur, comme le 21e jour. Non. On n'est pas dépendant de ces formes de l'organisation des organes, voyez, du corps. On n'est pas dépendant de ça. On regarde l'un. Et donc, je préfère penser à un moment où notre origine, au fond, c'est une seule cellule. Si dans cette cellule, vous en mettez plusieurs, vous en mettez qu'une, ça m'est complètement égal. Ça revient exactement au même pour la question de l'un. Ça revient au même, à peu près, à quelques nuances près, n'est-ce pas ? Donc je ne rentre pas dans cette discussion-là. Ce que je veux regarder, c'est que dans le premier moment où nous avons commencé d'exister, le moment avant, il y avait quoi ? Il y avait une disposition en fonction de la génération, une disposition à commencer d'exister, l'intervention de l'être premier créateur qui unifie notre corps organisé pour pouvoir recevoir une âme spirituelle. Voilà. Et donc, il y a une unité à la fois, un, du corps, deux, de la vie intérieure, l'âme, trois, du point de vue spirituel, quatre, de la soif d'amour, cinq, de la présence du Créateur, six, du lien avec la disposition intérieure, donc la famille, père, mère, unité spensale, avec toutes les racines que ça implique, racines adamiques comprises, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce que j'ai oublié ? Le point de vue de là, et le point de vue donc de la beauté et de la splendeur. Il y a un phénomène de transfiguration, de beauté, de splendeur. j'ai été. Donc ici, dans ce premier moment, il y a tous ces aspects-là. Regardons-les un à un. C'est très important parce que nous n'avons plus l'expérience de cet premier instant, et néanmoins, on est obligé d'affirmer qu'il y a ces sept modalités de notre expérience d'origine dans l'être. Si petits que nous soyons. Alors évidemment, aujourd'hui, on dit, oh mon Dieu, mais on était trop petits. Mais je dis, mais attention, t'étais trop petit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, t'étais trop petit? C'est par rapport à toi aujourd'hui, tu étais trop petit, mais ton âme et ta subjectivité et ta lumière, ton amour, la présence du Créateur était tout entière en toi. Et ton corps ne te paraissait pas petit, il avait la grandeur de ta grandeur. Il avait la grandeur de tes horizons, il avait la grandeur de l'âme, il avait la grandeur de l'ouverture, il avait la grandeur de la présence de Dieu, il avait la grandeur. C'était, finalement, tu avais une impression de grandeur beaucoup plus grande que l'état de grandeur dans lequel tu es, puisque tu es plus dominable aujourd'hui, je signale. Donc c'est pas, il est trop petit, c'est pas trop petit. Comme si Dieu était petit, comme si le Créateur était petit, comme si le lien avec notre origine était petite, comme si notre intelligence était petite, comme si notre âme était petite, comme si le don, j'allais dire, de la lumière, vous voyez, était petite, comme si la nature qui nous est donnée était petite, comme si même les dimensions du corps, la complexité, la sublime potentialité du corps était petite. C'est évident, vous voyez. Bon, alors, donc c'est pas une question de petitesse, c'est une question donc d'expérience d'origine. Il y a eu une expérience fulgurante. Cette expérience fulgurante, il faut la regarder parce que, dès le départ, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement Dieu nous a donné le point de vue donc de l'être, l'existence, non seulement il m'a donné la vie, l'âme, non seulement il m'a donné une vie spirituelle, non seulement il m'a finalisé, il m'a inscrit dans une finalité profonde où j'ai donné un oui d'éternité, non seulement il m'a inscrit donc dans le point de vue de la lumière d'une unité vivante avec ma famille, donc il m'a inscrit dans la disposition de l'unité sponsale, voyez, et c'est une disposition corporelle, tout ça c'est corporel à chaque fois, hein. C'est à la fois corporel, vital, lumineux, intérieur, incarné, tout est impliqué, n'est-ce pas? Et en même temps, donc, il me lie à lui-même dans une dépendance créatrice. Et enfin, nous avons dit, c'est tout ça se fait dans la transfiguration, la splendeur et la beauté. L'expérience de lumière qui fulgure comme ça, extraordinairement. Voyez, nous avons ces sept-là. Et ces sept-là sont vraiment dans une... C'est tellement fulgurant. C'est tellement extraordinaire. C'est tellement inouï. À partir de rien, d'un seul coup, tu as tout. Nous avons commencé comme ça, fabriqué essentiellement avec de l'amour, avec de la lumière, avec de la splendeur, avec de la présence vivante du Créateur. Je dis bien, vivante du Créateur. Et avec la kabod, avec, vous voyez, la gloire manifestée. Parce que quand la paternité donne, non seulement l'être, mais la vie, alors la vie implique la lumière, donc il y a forcément de la gloire. Forcément. Forcément. Il y a une espèce de... C'est vraiment très très fort ce qui s'est passé à ce moment-là. Et l'instant, alors c'est là que je ne sais pas, j'en sais rien, je ne sais pas plus que vous. Hein, quelques moments après, cette présence fulgurante dans la beauté, dans l'unité, tout ça c'est dans l'unité absolue, les sept sont dans une... La Créateur de Dieu laisse la place au visage parental de la mère, au visage parental de l'unité de la mère et du père, de l'unité de la mère au monde, de l'unité de la mère à l'esprit, de l'unité de la mère à Dieu, de l'unité de la mère à la grâce, etc. Laisse la place, et donc cette présence lumineuse qui fait l'innocence profonde de l'homme, qui fait l'innocence divine de l'homme, qui fait sa transfiguration intérieure, que Sainte Thérèse d'Avila repère être dans la septième demeure et la sixième demeure. Et qui demeure, justement, cette demeurance de l'innocence, il demeure dans la sixième et la septième demeure du château de cristal jusqu'à la mort. Alors aujourd'hui, évidemment, elle est camouflée parce qu'il y a les cinquième, quatrième, troisième, deuxième et première demeure où on peut commencer à pénétrer les serpents, les bêtes venimeuses, etc., l'obscurité, la gangue. C'est ça qu'il faut passer par la nuit obscure, hein, pour rentrer dans l'union transformante. Bon, alors, vous voyez, ça demeure, mais ici, cette demeurance du roi de lumière, transfiguré et vivant, lumineux, présent, voyez, adapté à nous, prend toutes les dimensions, toutes les strates de notre expérience d'origine. Et tout ceci dans l'unité diaphane d'une lumière vivante, amoureuse, où le temps et l'éternité, parce que Dieu est vivant dans l'éternité et nous dans le temps, sont un. Nous avons commencé avec une expérience d'éternité temporelle, une expérience de temporalité éternelle. Nous avons commencé comme ça, nous avons commencé avec ça, vous voyez, nous avons commencé avec l'un, vous comprenez? Et puis à un moment donné, est-ce que c'est une seconde après, est-ce que c'est l'instant d'après, est-ce que c'est 8 jours après, au moment où l'embryon commence à se fixer sur les parois utérines de la mère? J'en sais rien, j'avoue que j'en sais rien. Mais 8e jour, après la fécondation. Sinon, avant, il est dans une espèce de liquide aqueux, pas, il est là dans l'anonymat, je sais pas. Hein? On est là, c'est extraordinaire. Je ne vous demande pas de vous rappeler votre origine, parce que ça serait imaginatif. J'essaie de réfléchir avec vous et de regarder qu'il y a eu nécessairement, un moment où il y avait la présence dans la beauté, la présence vivante d'éternité, la présence lumineuse, la présence amoureuse, la présence contemplative, la présence de Dieu. Et moi, totalement présent. Et cette présence est si puissante dans l'actuation du Créateur que l'unité en moi est total. J'ai démarré avec l'un. Et l'un demeure dans ma 7e demeure intérieure, dans le point de vue le plus fondamental de mon corps actuel. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand cette unité vitale, lumineuse, physique, naturelle, amoureuse, voyez, temporelle, c'est-à-dire l'instant d'éternité, nous échappe parce que Dieu nous laisse passer du oui d'éternité qui est sous le oui personnel, nous disons à ce moment-là un oui fou. Vous voyez que quand vous êtes dans un ravissement, quand vous êtes dans une... Vous dites oui pour l'éternité, forcément. Hein? Si un jour vous avez... quand tu es en bave, quand tu es en stage et tout ça, et que tout le monde te dit « Attends, je vais t'écorcher vive », et quand tu fous plein de tentations, etc., tu dis « Seigneur, vraiment, tu me rendonnes, je commence à me murmurer, j'en ai marre, je désespère, tout ça. Hein? » Et puis en plus, il y a plein d'informations contradictoires concernant le point de vue religieux, alors je dis « Oh, ben, je laisse tomber. » Mais quand, d'un seul coup, l'Esprit Saint apparaît, en pleine lumière, l'Esprit Saint lui-même, sans médiation, et que tu rentres dans le ravissement, le vol de l'Esprit, ça y est, tu vois la procession de l'Esprit Saint à partir du Père et du Fils, et en plus dans le cœur, ça sert, l'Immaculée Conception t'apparaît, c'est fou, comment alors? Tu te rends dans le ravissement, un ravissement total. C'est la vie, donc, de Dieu, parce que tu as dit oui, tu t'es offert en victime quelque part, et ce oui te prend de l'intérieur, et c'est Dieu lui-même qui dit oui. C'est pas toi qui dis oui, c'est Dieu qui dit oui en toi. C'est l'Esprit Saint qui dit oui. Et tu ne peux pas résister. C'est la détermination de ton oui libre vient de Dieu. Voilà ce qui s'est passé dans l'un. Mais donc Dieu va te laisser te déposer dans le nid de la mère et dans le nid de la famille, dans le nid du monde, dans le nid de ton corps, dans le nid de ton esprit, dans le nid de ta liberté, pour faire que ce oui d'éternité que tu as dit dans l'un puisse devenir un oui personnel. Un oui dans une liberté non pas passive, mais dans une liberté active. Une liberté où c'est toi qui détermine ton oui par des actes, par ton être, par ta contemplation, par ton amour, par ta disponibilité, par ton adoration. Voyez? Bon, alors, c'est ça qui se passe. Ce passage à un moment où le oui n'est plus déterminé, l'un, si vous préférez, qui est en nous, n'est plus déterminé par la vitalité lumineuse de Dieu, pour laquelle je dis, j'adhère librement. Hein. Quand vous êtes dans le ravissement, vous adhérez librement. Hein. Et vous vous retrouvez tout seul. Vous dépendez de Dieu que du point de vue de l'être. Du point de vue de la vie dépend de vous. Du point de vue de l'intelligence, c'est votre choix. Du point de vue de l'amour, c'est votre disponibilité. Etc. C'est vous. C'est plus Dieu qui détermine tout ça. Alors, comment est-ce que vous faites? Et à ce moment-là, il y a cet éclatement de l'un. Le premier éclatement de l'un, c'est que du coup, on a été sensible. Je choisis ce mot exprès. On a été sensible. Dans la première expérience de l'un, on a été sensible plutôt à l'aspect de la splendeur. Voilà. Plutôt à l'aspect de la splendeur. Voyez? Ou plutôt à l'aspect de la nature. On est reçu dans une nature humaine. Ça, c'est très très fort. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que le point de vue du corps? Cette expérience du corps, alors on va regarder un à un maintenant. Le point de vue du corps, cette expérience du corps dans l'origine, cette unité du corps, c'est notre corps de l'intérieur est tellement corps humain, voyez, qu'il est présent à tous les autres corps. Le microcosme, qui est le nôtre, est en lien vital, naturel et réel, de par la puissance créatrice de Dieu qui incarne son acte créateur avec le macrocosme. Tout le corps de l'univers est présent, si je puis dire, en relation, j'allais dire physique, je dis bien physique, parce que ce n'est pas physique au sens où il y a un contact physique de matière à matière, mais il y a un contact physique, c'est-à-dire un contact réel. Le corps vibre en relation avec tous les autres corps dans l'unité absolue, le macrocosme dans le microcosme. Voyez? Et ça, il y a quelque chose de très très fort. Le corps, l'univers, puisque l'acte créateur de Dieu, lorsqu'il crée, il s'engloutit entièrement dans son acte. Dieu est indivisible. Donc il crée en même temps l'univers, il crée en même temps ton corps. Donc tu es présent à l'acte créateur de Dieu dans le point de vue du macrocosme. Et ton corps est lié à ça. C'est inouï. On a cette expérience de la nature qui nous est donnée par la présence créatrice de Dieu. Et voyez, ça c'est quelque chose de très très fort. Il y a quelque chose qui fait que du coup, tout est présent à nous et notre unité avec le cosmos fait que nous pouvons louer et remercier, le cosmos ne peut pas, l'univers ne peut pas. Alors, ça nous inscrit dans une espèce de louange vitale. C'est ça l'homme. Alors, je choisis dans notre univers d'être un homme. Je fais le choix de l'homme. Vous voyez, quand je suis conscient, vous voyez, au bout d'un certain temps, enfin conscient, progressivement avec ma vie, je vais devenir conscient de l'odeur de cette dimension naturelle de l'humanité, c'est que l'homme est au-delà de son corps, microcosme, et au-delà du macrocosme, il est au-delà de l'unité du macrocosme et du microcosme, c'est encore un au-delà, c'est l'homme. Alors il y a le choix de l'homme, parce que l'homme est un dépassement, puisque c'est lui qui est source d'unité du microcosme et du macrocosme. Alors je fais le choix de l'homme. Il y a des gens qui font le choix de l'homme. Le choix de la splendeur. Ah oui, le choix de la splendeur. Le choix de la splendeur. Je peux faire aussi ce choix de la splendeur. Il y a des gens dont le pli, ce sera beaucoup plus, du point de vue le choix de la splendeur. Resplendir. Resplendir de cette unité, voyez. Pourquoi? Parce que la puissance créatrice de Dieu, qui à partir de rien ou de pas grand-chose, une disposition, crée quelque chose de si extraordinaire dans la lumière et dans la beauté, que, vous voyez, que cette personne humaine qui apparaît, quelque chose de si extraordinaire, la puissance créatrice de Dieu est présente dans toute sa puissance créatrice, avec toute la présence créatrice de Dieu sur tout ce qu'il crée. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, toutes les splendeurs créatrices, la toute-puissance créatrice se trouve présente dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans la lumière, dans une unité invraisemblable. Lorsque le Créateur, avec sa puissance créatrice, disparaît pour ne regarder qu'une relation métaphysique avec moi, cette puissance créatrice-là, cette puissance créatrice de beauté et de splendeur, j'en ai la nostalgie, vous comprenez? Et donc je vais choisir toujours dans ma vie le point de vue de la splendeur. Le point de vue donc de l'harmonie entre tous les actes de création à partir d'une imperfection, d'une disposition, toujours aller plus loin dans le point de vue de l'art, du resplendissement, de la perfection de l'univers, mais du travail, et mettre mon génie au service de la splendeur. À ce moment-là, vous voyez, je serai inspiré Et j'irai jusqu'au bout, parce que la puissance créatrice de Dieu va toujours jusqu'au bout de sa détermination créatrice. Alors à ce moment-là, je serai artiste. Et il y aura un pli, vous voyez, de ce côté-là. Bon, autre pli, mais vous voyez, il faut prendre dans tous les côtés. Ah, le Dieu, il est présent dans sa puissance créatrice, mais au fond, le terme de son acte créateur, c'est quoi? C'est le fait que j'existe. Le fait que j'existe unifie, certes, toutes les dimensions de mon être, mais c'est le fait que j'existe qui est le fruit de la créateur de Dieu. Et je vois très bien ce que c'est la source de l'unité, c'est le point de vue de l'être. C'est de l'intérieur de l'être qu'il y a ce revêtement de l'un. Et donc le terme de l'acte créateur de Dieu, je le vois bien, c'est le point de vue de l'être. Et donc je vais choisir, je vais toujours être à la quête de la vérité sur l'être, le choix de l'être. Plutôt que le choix d'être dans la beauté, que tout soit dans la beauté, le choix de l'être, je suis. Le choix de l'épure de l'être, de la vie contemplative, de la contemplation de ce qu'il y a de plus pur au point de vue métaphysique, de ce qu'il y a de plus pur au point de vue contemplatif, de ce qu'il y a de plus pur au point de vue de la vérité, de ce qu'il y a de plus subsistant, indéracinable, actuel d'un point de vue de la vie contemplative, voyez. Alors, on va faire le choix de l'être. On peut faire aussi, dans la vie, le fait qu'on ait une vitalité intérieure. Le Père nous a donné notre vie spirituelle. Dieu nous a créés dans l'ordre de l'être et il nous a donné une vie intérieure, une vitalité qui a donné l'unité à notre corps, à notre âme, à notre esprit. Et qui fait qu'on a une vie, des horizons intérieurs aux dimensions de notre âme, c'est-à-dire aux dimensions presque quasi de l'infini, d'un point de vue de l'intériorité, voyez. Et ça, cette vie-là, elle est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, effectivement, tout ça, qu'est-ce qui fait la vie? Eh bien, qu'est-ce qui fait la vie, vous le savez, qu'est-ce qui actue les intériorités vitales? C'est le point de vue de la lumière. Alors, si je suis très sensible au point de vue de l'intériorité du choix créateur de Dieu, alors je vais choisir toujours la vie, c'est-à-dire je vais choisir la lumière. Je vais choisir la sagesse. Je vais choisir, voyez, le choix de la lumière. Le choix de l'ordre. Le choix de tout ce qui est ordonné. Tout est illuminé dans la hiérarchie des ordres. Chaque chose a sa place. La vie intérieure est dans l'ordre. Toutes les puissances vitales sont dans l'ordre. La sagesse est là, la vie intérieure est unifiée dans la lumière. Le choix de la lumière, le choix de la sagesse, le choix, il faut bien le dire, de l'ordre. D'ailleurs, c'est marrant, vous remarquerez que dans le tableau que je vous ai donné, les sacrements qui correspondent, hein, qui vont rétablir ça, les sacrements qui correspondent à chaque fois, c'est le sacrement de l'ordre hein, qui correspond à cette dimension-là. Le sacrement de l'ordre. L'âme est médiation entre l'esprit et le corps, c'est le médiateur. Sacrement de l'ordre, sacrement de baptême, choix de l'homme, confirmation, donner dans toute sa force de la splendeur à notre foi, pour qu'elle témoigne, qu'elle illumine, etc. Il y a une correspondance très profonde entre les sacrements qui relèvent ces dimensions blessées, et puis, voyez, ces dimensions blessées elles-mêmes, pour qu'elles retrouvent leur vitalité originelle, dans l'unité du Christ, qui, elle, est totale et éternelle. Donc, on continue. Vous voyez, les choix que nous faisons sont le pli profond du choix que nous faisons. Et pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose de choisir l'homme, de choisir le point de vue de l'être, de choisir le point de vue de la splendeur, de choisir le point de vue de l'ordre et de la lumière. Bon. Alors, pour ce qui concerne le fait que je suis originé dans l'unité, il y a mon Père, il y a ma mère, il y a l'unité sponsale, il y a l'unité sponsale, hein? Donc il y a mon père en bleu, ma mère en rouge, et il y a l'unité sponsale en vert. Et l'unité sponsale, c'est communautaire, 1, 2, 3, il faut au moins 3 pour une communauté. Dès que vous êtes 2, ce n'est pas une communauté. Dès que vous êtes 3, c'est une communauté. Dans l'unité sponsale, il y a le corps social. Oh, le corps social de base,
le corps social de base. C'est l'unité sponsale. Vous êtes originé dans la disposition que vous donnent vos parents, animé par le point de vue ontologique de l'unité sponsale. Ce n'est pas le point de vue ontologique du père, ce n'est pas le point de vue ontologique de la mère, c'est le point de vue ontologique de l'unité sponsale. N'est-ce pas? Et donc vous êtes originé dans un corps social auquel s'associe le Créateur, le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. Communauté extraordinaire. Et vous, 7 membres dans la communauté. Un seul corps mystique. C'est de là que vient le point de vue de... Le point de vue fondamental de l'Église, c'est ça. Si on veut aimer l'Église, il faut retrouver cette odeur primitive de la communauté familiale qui a saisi mon corps. J'ai été fabriqué avec ça. Voyez. Alors à ce moment-là, il y a une unité du corps mystique dans mon corps total. Une unité de l'unité sponsale, de l'unité sponsale de mon père et de ma mère, de mon corps, de la Créateur de Dieu et de la Très Sainte Trinité. Il y a 7 personnes là qui sont là, enfin, sauf que l'unité sponsale n'est pas une personne, c'est juste un point ontologique comme tout ça. Non, presque, la valeur de personne, quelque part, potentiellement. On a en tout cas 6. On est en tout cas, ça c'est sûr. Mais l'unité sociale est absolue. Il n'y a aucune division. Aucune multiplicité. Vous mettez peut-être le 6e ou le 7e avec l'héritage adamique. Hein, ça peut être. Parce qu'il y a une relation adamique. Mais ça, bon, c'est en théologie qu'on peut le dire. En philosophie, c'est difficile. Alors, du coup, je serai très sensible à cette unité. Alors, ce sera toujours le choix de l'un. Et oui, c'est toujours sensible à l'unité, ce qui est de l'unité, même l'unité en moi, l'unité profonde, l'unité avec les autres, l'unité avec l'univers. C'est le choix de l'un qui va dominer. Ah, c'est tout à fait ça, le choix qui est que tu vois, que si tu fais une cuisine, alors vraiment, tu fais un plat, tu prends plein d'ingrédients différents et tu fais un plat qui a un seul goût. Extraordinaire, ça, vous voyez, c'est pour ça que le repas est le lieu de la communauté, c'est à cause de ça, parce que le goût, on a le goût de l'un, et ça, ce sens de l'un, ce sens de la communauté, ce sens du corps mystique, vous voyez, l'Église par exemple, corps mystique, un, saint, catholique et apostolique, c'est sûr. Bon, ensuite, pour le point de vue donc de la Créateur de Dieu, ah bon, ça c'est facile, Dieu est là, il est présent, le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu qui domine dans ma vie. Et au fond, le dernier, alors là, c'est tellement fort la présence de Dieu qu'il est tout autre par rapport à moi. L'amour qu'il investit en moi fait que je suis anéanti. Il n'y a plus que lui qui vit, qui détermine tout. Lorsqu'il disparaît, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans l'attente de quoi? De l'amour. Le choix de l'autre. Le choix de l'autre. Voilà les 7 grands choix de la liberté passive d'origine qui vont déployer dans nos actes en prenant un pli particulier à chaque fois pour les uns, pour les autres, n'est-ce pas, d'une manière plus ou moins accentuée. Il faut savoir que ici, nous avons une responsabilité personnelle, même si petit que nous soyons. Si petit que nous soyons, nous avons une responsabilité personnelle dans la sensibilité spirituelle à telle ou telle dimension. On espère qu'il y a les 7, hein, mais on constate en réalité qu'il y a plutôt un pli. Ça peut effectivement être déterminé par diverses raisons que je ne veux pas soulever ici, notamment le Yetzer Hara, n'est-ce pas ? C'est-à-dire la tendance vers le basculement des choses de la terre, voyez, la fameuse conséquence du péché originel, qui vient frapper dans l'instant d'après. À cause de ça, notre choix va s'inscrire dans un ordre particulier ou dans une... Il faut savoir ça. Il faut peut-être, grâce à ces approches-là, essayer de percevoir quel a été notre choix originel, personnel, responsable. S'il était... s'il était pécamineux à cause du Yetzer Hara, on dira non coupable. Responsable, non coupable. Je suis responsable, mais pas coupable. Hein? Comme les politiques d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils disent, je suis responsable, mais pas coupable. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont un niveau de responsabilité égal à celui de la première cellule de l'embryon. Ça ne pisse pas plus loin au niveau politique. Ça ne pisse pas plus loin. C'est extraordinaire qu'ils le disent publiquement comme ça. Ça veut dire, bon, très bien, voilà, c'est... Vous n'avez pas évolué depuis 60 ans, là ? Ah ben non, 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 responsable, pas coupable, je n'ai pas bougé depuis. Curieux, ces relations extraordinaires qu'il y a entre le pli religieux et la manière dont on va exprimer son humanité, c'est étonnant. C'est sûr que le blocage de l'ontologisme ou bien de la réforme, c'est par rapport au péché originel, hein, vous le savez. C'est là où, par rapport à l'anthropologie, c'est là où ils sont complètement en dehors de la vérité. C'est hérétique, quoi, par rapport à l'origine. Mais c'est pourquoi en philosophie, il va falloir, indépendamment de l'écriture, prendre la philosophie pour retrouver la vérité et réexpliquer l'enseignement des pères de l'Église et l'infaillibilité pontificale qui enseigne ce que je vous dis. D'une autre manière, bien entendu, ils l'enseignent d'une autre manière, mais nous le retrouvons par le point de vue bergsonien de l'intuition de l'être. N'est-ce pas ? Parce que là, c'est intuitif, c'est vrai. Alors, voilà, donc ça ici, c'est une autre manière que de dire, tiens, vous avez un visage qui respire de vie, de plénitude, d'amour, de lumière, voyez, de splendeur. Mais on peut regarder maintenant, alors ici je m'étais amusé dans l'Ermitage parce que je perds, vous voyez, le nom qu'on pourrait donner, votre ange gardien, si vous êtes suprême ici ou suprême là, je me suis dit, tiens, on va donner un nom d'ange gardien. Mais ça, c'est les élucubrations du Père Patrick, vous voyez. Ne faites pas comme si c'était sérieux. Mais au moins pour comprendre. J'ai appelé l'ange gardien de l'homme ici, dans le corps et dans la nature, louange vitale. Louange vitale. C'est vrai que dans l'origine, nous étions louange vitale. Dans l'origine, nous étions gloire silencieuse. Dans l'origine, nous étions, voilà pour le point de vue de l'art. Dans l'origine, nous étions simplicité totale du regard, dans le face-à-face, du face-à-face. Simplicité totale, face-à-face, j'ai hésité entre les deux. Dans l'origine, nous étions lumière vivante. Dans l'origine, nous étions, voilà pour le point de vue de la vie, bien entendu. Dans l'origine, nous étions onction. Vous voyez, le point de vue du Messie, c'est extraordinaire. Onction éternelle d'amour, de bonté. Dans l'origine, nous étions Nous étions onction totale d'amour. J'arrive même pas à me lire. Dans l'origine, nous étions l'ange gardien pour le choix de Dieu, l'adoration. Nous étions instant éternel d'amour. Et dans le premier moment, nous étions amour, 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 amour en plénitude. D'autres auraient dit don. Mais ça, c'est moi, hein? C'est le poète. Le poète peut de temps en temps s'exprimer pour faire comprendre le choix originel de l'homme. Mais je vois pas pourquoi on irait castrer l'homme d'un bras, d'une cuisse, etc. Lui abstraire les entrailles, les reins, etc. En disant, ah, au moins, là, il n'y a plus que le cerveau, les yeux, le cœur, terminé. C'est plus un homme. Il manque quelque chose. C'est pas ? Alors, maintenant, nous allons arriver au point de vue de sérieux, n'est-ce pas ? Qui vous attendait depuis le début. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, au départ, la présence créatrice de Dieu fait que le corps, ma main gauche, l'âme, ma main droite, sont unis totalement. 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 L'âme dans le corps dans l'âme et l'esprit. Parce que l'unité créatrice vient de Dieu, la présence créatrice de Dieu, donc la vitalité de mon âme est présente dans tout le point de vue de mon corps et donc il resplendit dans la lumière, la transparence, l'agilité, la subtilité, l'impassibilité. L'impassibilité, c'est absolu. Et la satiété. Les cinq expériences vitales de l'unité de mon corps et de mon âme à l'origine. Puis quand Dieu, dans sa puissance créatrice lumineuse, actuelle et vivifiante, donc, me laisse à mon oui personnel et à mon choix, à cause du... Il me laisse cette unité, j'allais dire, se décroche. L'unité de mon corps et de mon âme, vous voyez, mon âme reste unie à mon corps, mais la partie, au fond, seulement psychique de mon âme est soudée à mon corps, mais la partie spirituelle de mon âme, c'est comme désolidarisé pour pouvoir se réintroduire dans l'unité de l'âme et du corps pour faire des actes libres. Il y a comme un décrochage. Et ce décrochage s'est accentué avec l'héritage du péché originel, parce que le péché originel introduit la mort. Et vous savez que la mort, c'est une tendance de la séparation de l'âme et du corps. Une tendance vers la mort. Et donc une tendance vers une séparation encore plus grande entre l'âme et le corps. De sorte, vous voyez que cette unité si importante pour nous, d'un seul coup, nous échappe. L'un nous échappe. Il reste caché dans quelque chose que nous n'atteignons plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? On va mettre ça en bleu. Qu'est-ce qui se passe ici dans le point de vue de l'amour, pour commencer? Parce que c'est quand même plus important. Nous recevons un don et nous sommes tout accueil de ce don. Nous sommes tout accueil de ce don. Nous recevons le don de l'extase, le don de ravissement, le don de l'amour éternel, le don de celui qui est amour. Et nous sommes fabriqués avec cette réceptivité de l'amour pur, essentiel, éternel de Dieu. Dieu lui-même est amour et nous le recevons. Nous sommes adaptés par la Créateur de Dieu à la réceptivité de Dieu, amour lui-même. Voilà comment nous avons commencé. Et il y a le jeu et le don, c'est-à-dire la présence d'amour pur de Dieu et l'accueil de l'amour de Dieu sont une seule chose en nous à l'origine. Donc lorsque Dieu, lorsque l'amour de Dieu, j'allais dire, nous laisse au choix, à la possibilité du choix de l'autre pour l'aimer. Alors qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus que la capacité d'accueil. Et face à cette capacité d'accueil, à cause du péché originel, à cause aussi de la responsabilité personnelle passive, les deux, c'est ce qu'il faudrait arriver un jour à déterminer, alors à ce moment-là, il y a une double possibilité. Ou bien je rentre dans l'attente du cœur, l'attente de l'autre, le désir de l'amour, voyez, ou bien je rentre dans le repli. Ah, il est parti, oups, je me replie sur moi. Voilà le drame, j'allais dire, de l'être originel, si vous voulez, de l'homme dans son origine, dans son soi passif. Il peut faire un choix de repli, il peut faire un choix d'attente. Ou bien il aura la philosophie du même, c'est-à-dire moi-même, ou bien la philosophie de l'autre. Il l'attend. Il veut l'aimer. Il veut l'aimer. C'est pas, je ressens l'amour, je ressens l'amour, repli sur soi, repli sur soi. Les énergies, vous voyez, les énergies. Ou bien je l'aime, c'est l'autre. Je l'attends, je veux l'aimer. Vous voyez, c'est extraordinaire. Alors, voilà le choix profond. Ou bien le choix du repli, ou le choix de l'amour et de l'attente. Le vœu, l'aimer. Alors, c'est sûr que la puissance de la volonté spirituelle de l'amour jouera un rôle très important. Deuxième dislocation, la dislocation qui vient de l'acte créateur de Dieu dans l'origine, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu détermine à partir de rien, ex nihilo, le point de vue de l'être, j'existe. Et Dieu détermine à partir de la disposition, ça c'est l'explosion originelle, n'est-ce pas? Avec les sept, hein, les dimensions. Bon, l'explosion originelle, ok. Bon, détermine à partir d'une disposition préalable, pas adaptée à la splendeur et à la grandeur de ce qu'il crée, il donne la vie spirituelle, il donne l'âme spirituelle. C'est le Père, c'est le Créateur. Il fait que l'être existe. Il est le Père, il donne, il crée une âme spirituelle et il la donne. Il donne sa vie, il donne la vie spirituelle, il donne l'âme spirituelle. Il crée l'âme spirituelle. Et ma vie spirituelle, mon âme spirituelle est déterminée par Dieu. Mon être est déterminé par Dieu. Les deux sont déterminés par Dieu. C'est le seul moment de toute notre existence, le seul moment, ça c'est très important, où nous avons fait l'expérience de l'ontologisme transcendantal. Ça c'est pour les profs. Nous avons fait l'expérience une expérience où l'être comme la vie, les deux, sont sous la dépendance totale, actuelle et exclusive du Créateur et du donateur de vie. L'instant d'après, il y a seulement le point de vue de l'être, le fait que j'existe, qui est sous la dépendance actuelle de la Créateur de Dieu. Ma vie, Dieu ne la crée plus. Il me l'a donnée, c'est moi qui fais ce que je veux. Je suis maître de ma vie. C'est moi qui détermine ma vie. Mon âme se détermine et détermine ma vie intérieure, comme je l'entends, en fonction aussi, éventuellement, des circonstances, des influences, etc., du monde extérieur. Mais en tout cas, ça ne dépend plus de Dieu. Ce n'est plus Dieu qui détermine ma vie. Donc la détermination absolue, totale, à 100%, pour ne pas dire vraiment, de l'être et de la vie, voyez, se disloque. Il n'y a plus que l'être, il ne reste plus. Il n'y a plus que l'être qui dépend totalement de l'acte créateur de Dieu. Ma vie dépend de mon âme. Ma vie dépend de mon âme spirituelle, dépend de cette source de vie, ce principe de vie qui est en moi, dépend de moi spirituellement présent dans ma source. Vous voyez, ça c'est quand même quelque chose de très très important. Alors, quand ma vie se retrouve plus sous la dépendance de l'être premier et incréé, alors, je vais choisir quoi? Quels sont les deux choix? Ou bien ma vie va être, j'allais dire, en attente d'absolu. Elle va se tendre. Elle va retrouver en elle la soif de l'absolu, la soif de son origine, la soif de sa finalité, la soif de Dieu. Elle va être en attente de l'absolu, elle sera dans la recherche de l'absolu tout le temps, tout le temps. Ou bien, alors, au contraire, elle va choisir le point de vue, donc, de la limite, point de vue du créé, le point de vue du péché, le Yetzer Hara, c'est ici que le Yetzer Hara joue le plus fort, n'est-ce pas? La tendance vers le créé, ou alors la tendance vers l'incréé, la tendance vers le péché. Et alors, c'est sûr que c'est probable, n'est-ce pas? C'est très probable, mais c'est même absolument certain théologiquement, que le péché originel nous frappe ici, dans notre choix personnel. Nous participons, avec Adam, au choix du créé. Personnellement, nous sommes responsables, mais pas coupables. Tandis qu'Adam était coupable et responsable. Et c'est sous l'influence de l'héritage d'Adam que nous faisons ce choix, en plus ou en moins, dans une liberté passive d'origine, parce qu'il n'y a plus la grâce originelle. La grâce originelle, nous l'avons en quelque sorte, avec les dons préternaturels en moins, par rapport à Adam, dans le premier moment, mais quand Dieu nous laisse la liberté, nous nous retrouvons avec l'héritage adamique, c'est-à-dire sans cette grâce originelle et sans les dons préternaturels d'Adam, si bien qu'on a une tendance à choisir passivement, librement, c'est une liberté passive, pas active. Le point de vue donc du créé, le Yetzer Hara est plus fort, il nous donne cette tendance. Mais on peut continuer à aspirer à l'absolu. Notre choix joue. On a un choix. On fait un choix profond. Il dépend de beaucoup de choses. Ça, je ne rentre pas là-dedans pour l'instant. Je regarde les choix d'origine de notre personne. Cette espèce d'examen de conscience de notre origine à partir de la métaphysique de l'un. Comme c'est fort, comme c'est important, comme c'est intéressant. Continuons. Bon, ça c'est moi qui me lance des fleurs. Oui. Donc vous avez le point de vue de la coopération. La coopération... Ah, alors qu'est-ce qui se passe dans la coopération? Essayez de vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé ce jour-là. C'est pas... Cette coopération que je vous ai montrée tout à l'heure et qui fait qu'on choisit toujours le point de vue, on risque de choisir le point de vue donc de l'un. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que... Ce qui se passe, c'est que... C'est ce que je vous disais. C'est qu'il y a, dans l'acte créateur de Dieu sur nous, quelque chose qui fait qu'on est en dépendance. Quelque chose qui fait qu'on est en dépendance vis-à-vis du Père et de la Mère. Vis-à-vis de l'unité sponsale du Père et de la Mère, qui régit ses lois, j'allais dire, dans la disposition du corps qu'il nous donne, vous voyez, le zygote, le zygoto. C'est pour ça qu'on a des zygotos. Donc, alors, on dépend aussi de la présence de Dieu. On est sous la dépendance et en même temps, on est à l'origine tellement dans l'unité familiale, j'allais dire, d'un corps mystique. Vous voyez, il y a aussi le Christ, nous le savons, nous. Il y a aussi le Christ. Nous savons aussi ça, n'est-ce pas? Nous savons aussi que quelque part, il y a une présence adamique et donc il y a une présence de l'humanité tout entière. On est responsable de tous les hommes à partir de là. Chacun d'entre nous. Vraiment, il y a un corps mystique qui fait que ils sont tous présents en nous, dans l'origine, parce que Dieu est vitalement présent dans son acte social de constitutif de la Jérusalem, de la glorification de l'univers en puissance. Vous voyez ? Alors à cause de ça, on est dans une dépendance totale, la dépendance totale vis-à-vis des autres, vis-à-vis des parents, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la communauté trinitaire, vis-à-vis de la communauté. On est sur... Et c'est sûr que c'est pas vous qui... ton père et ta mère ne dépendent pas de toi. C'est pas toi qui les avortes. Hein, c'est l'inverse. Vous savez ça? Ben, dans une clinique, vous verrez. Eh bien, c'est pas le médecin qui est tué par l'embryon. C'est l'inverse. Eh bien, c'est sûr. Donc, faut savoir ce que ça correspond exactement. Vous voyez? Ce refus de l'humanité tout entière. De l'unité vraie de l'humanité. L'avortement, c'est le refus de l'humanité. De l'unité communautaire. C'est total. Le refus de la famille, le refus de la société, le refus de la communauté humaine dans ce qui fait son unité vitale, humaine, dans l'un. Ça, c'est significatif, hein, c'est sûr. Alors, il y a une dépendance. Et en même temps, on est spontanément dans le corps social, on est spontanément dans le corps mystique, on est spontanément une joie. Vous voyez ? Il y a une spontanéité vitale et en même temps une dépendance. Mais aussitôt, donc spontanéité vitale, dépendance, voilà ce qui caractérise spontanéité vitale, dépendance. L'instant présent, si vous voulez, est lié à l'éternité. C'est un instant d'éternité qui récapitule tout ce qu'il y a dans les instants. L'instant présent et l'éternité sont un. L'odeur de l'instant éternel de Dieu et l'odeur de tous les instants temporels dans cet instant unique du temps qui est le nôtre à l'origine sont un. Donc la spontanéité de l'éternité et la dépendance temporelle sont un. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Regardez ce que les adolescents sont perturbés. Quand les adolescents commencent à rentrer à l'âge de 15 ans dans la dépendance sociale, ils quittent la dépendance par rapport au père et à la mère, la vie par rapport à la nature, et puis ils rentrent dans la dépendance sociale. Ils cherchent à discuter, ils cherchent leurs amis, leurs copains, etc. Hein? Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, et c'est ça. On dit, oh, j'aime pas être là parce que c'est pas spontané, on peut pas vivre spontanément ici. On dépend tout le temps de loi, je veux sortir de cette famille, il y en a marre, etc. Sur la dépendance, wow, on étouffe, on ne peut pas être spontané, on ne peut pas vivre. Ah, cette communauté formidable, on vit de la spontanéité, on ne dépend de rien, etc. Vous voyez, cette espèce de dialectique qui se place d'un seul coup entre la spontanéité et la dépendance vis-à-vis des autres. Et quand on vit dans une famille, c'est sûr, c'est embêtant. « Oh, ben, je veux bien me marier, mais dépendre de ce mec hein, tout le temps. » Bon, je pourrais être un peu plus libre que par rapport à mes parents, mais enfin... je veux pas te... Moi, ce que je veux avec lui, mais quand je l'aime, quand on s'aime, quand c'est de l'amour, quand c'est une unité familiale, quand c'est une unité spontanée, il y a une spontanéité entre nous deux, et en même temps une dépendance totale mutuelle. Ça compte, c'est pas contradictoire. C'est pas du tout contradictoire. L'unité spontanée, la spontanéité vitale et la dépendance s'alimentent l'une l'autre. Vous voyez bien, c'est ça la famille. Ah donc je recherche la famille. Je recherche cette absence de contradiction entre la recherche de la spontanéité vitale pour la spontanéité de l'adolescent immature et de la dépendance de l'enfant. Oui, parce que j'ai passé l'épreuve de l'enfance, j'ai passé l'épreuve de l'adolescence, voyez ? J'ai passé l'épreuve de l'enfance, j'ai passé l'épreuve de l'adolescence. Alors je me demande comment est-ce que je vais vivre tout simplement, donc en dépendance d'un autre, dans la contemplation, dans l'engagement, la responsabilité, dans l'amour, dans l'unité. Alors c'est pas la dépendance de l'enfant, c'est pas la spontanéité de l'adolescent pour la spontanéité de l'autre, c'est les deux qui s'alimentent l'une l'autre sans contradiction. Voyez ça? Alors que lorsque, c'est vrai que lorsque le bon Dieu, si je puis dire, c'est pas très philosophique, l'être premier, donc quand l'être premier, si je commence à devenir curetant, je veux dire, alors, remarquez, je ne nie pas mes origines, hein. Bon, alors, je me plante pas, quoi. Bon, alors, vous voyez, donc, cette spontanéité dans la dépendance disparaît. C'est sûr. Alors, quels sont les choix de la responsabilité originelle qui vont s'imposer à moi? Hein? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit la dernière fois ou pas? Justement, la fois dernière, j'avais passé rapidement sur cette question-là. Oui, oui. Alors, ici, c'est plus... Pourquoi j'étais passé rapidement? Parce que ça demanderait des développements. Ou bien, je rentre dans le point de vue de la loi éternelle, et là, ici, rien que ça demanderait des développements considérables. Si pour ceux qui veulent comprendre, ici c'est très important, hein, cette colonne-là est excessivement importante pour la prise de conscience, je vous signale. Nous avons travaillé toute une année là-dessus, l'année où on a fait l'éthique en fonction des trois épreuves de la vie. Hein. C'est elle qui m'avait demandé de faire ça, alors du coup. L'épreuve de l'enfance, l'épreuve de l'adolescence, l'épreuve de l'âge adulte, il y a une loi éternelle qui vivifie spontanément ma dépendance à Dieu dans ma spontanéité vitale d'origine, et ça s'appelle la loi éternelle. Cette lumière vivante qu'on appelle la loi éternelle, qu'on peut traduire quelquefois dans le langage humain, dans le langage des bouquins, etc., par loi naturelle, mais loi naturelle c'est un peu extérieur, hein. Loi éternelle, une espèce de vitalité qui fait que spontanément je suis uni à tout et à Dieu. Cette loi éternelle qui fait gratuitement, et ça fait les êtres les plus spontanés qui soient. Parce qu'ils sont sous la dépendance d'une loi éternelle qui s'est imprimée en eux, qui fait vivre, j'allais dire, toute la puissance d'unification, d'énosis. Vous voyez ? Alors, je fais ce choix, cette loi éternelle. Et ce choix de cette loi éternelle se détermine déjà dans l'enfance. C'est ceux qui font ce choix éternel. Lorsque la loi éternelle prend le point de vue de la raison, de la conscience de raison, c'est là que vous trouvez votre vocation. 7 ans, à l'âge de 7 ans. 6, 7 ans, 8 ans. C'est là que, lorsque vous commencez à devenir adolescent, 14, 13, 15 ans, il y a un nouveau choix. La loi éternelle vous demande de prendre possession de l'intérieur dans la confiance et l'esprit du pardon, la miséricorde et l'espérance. que Dieu complète tout ce que vous n'arrivez pas à faire dans l'unité du corps et de l'intériorité, cette nouvelle loi éternelle. Il faut que votre corps obéisse à cette loi éternelle. Et qu'il y ait ce sens de la tempérance, de la transparence, de la chasteté, de la signification sponsale du corps. Et du coup, on ne se vautre pas, telle la serpillière, n'est-ce pas? Bon, etc. Et la responsabilité, etc. Vous voyez? Pareil, troisième épreuve de la vie. Cette loi éternelle vient prendre possession de mon lien avec tous les autres et avec le monde pour être responsable et m'engager, donner ma vie et de manière que les autres vivent. C'est les trois épreuves de la vie. Alors, si j'ai fait le choix de la loi éternelle, je passe victorieusement ces trois épreuves et je deviens un être éthique et social. Alors, ou bien c'est le choix de la loi éternelle qui fait que j'ai autorité sur moi-même, autorité sur mon intériorité, autorité sur mon corps, autorité sur le monde humain. Et donc, je peux être responsable. Ou bien alors, c'est le choix du pouvoir, ou des pouvoirs, la recherche des pouvoirs. Attends, je voudrais avoir le pouvoir de guérir, je voudrais avoir le pouvoir d'influencer, pour le bien, toujours, ah oui, pour la guérison. Ayons l'autorité, mais pas le pouvoir. Et la loi éternelle nous donne autorité. C'est de l'intérieur que ça s'impose, sans, spontanément, sans mettre sous la dépendance. Sans mettre sous la dépendance. Vous voyez, c'est quelque chose de très très profond, ça, et de très fort. Bon, vous avez une année de cassette là-dessus, prenez-la, c'est une de nos meilleures séries. C'est la série Éthique 1980. C'est toi qui avais commandé. Hein? Sois responsable un peu, hein? 80. Bon. Bon. Maintenant, la dimension. Regardez, vous voyez tous ces choix. Ces choix divers. On va. Il nous reste. J'arriverai jamais, hein. Pourtant, j'ai démarré au départ, hein. Bon. Donc, ici, dans le point de vue de la dimension de notre vie intérieure. Regardez comme notre vie intérieure avait cet aspect si formidable. Que c'est la vitalité vivante et intime de Dieu qui déterminait notre vitalité intérieure. Notre intériorité était inscrite dans l'intériorité du Créateur. C'est fou, vous comprenez? Savoir à partir de quoi nous sommes partis du point de vue de l'intériorité. Notre âme avait les dimensions qu'elle avait à l'origine, des dimensions que notre âme avait à l'origine, c'est-à-dire les dimensions de l'infini. Et après, les gens, ils vont dire, « Mais c'est tout petit, il n'y a pas ça du tout, c'est trop petit. » C'est curieux, ce refus de notre existence, ce refus de notre vie, ce refus de notre origine, ce refus de notre humanité. Bien sûr qu'on n'était pas petit. Le Saint-Père dit que c'est au moment où Dieu nous crée qu'il nous inscrit dans le livre de vie. C'est-à-dire là où on atteint la plénitude de notre grandeur. Cette plénitude vitalement inscrite au départ. C'est pour ça qu'il y a un oui d'éternité qui est libre de notre part. Mais après, c'est à nous de l'inscrire dans le temps par des actes pour l'atteindre dans la finalité éternelle qui sera la nôtre, n'est-ce pas? C'est ça. Vous avez ici tout le microprocesseur de l'origine de l'homme. Donc vous avez, dans le point de vue de la vie, qu'est-ce qui s'est passé? Lumière vivante. Lumière vivante. Alors, toute la vie, je ne vais pas dire la vie divine ou de la grâce, mais la vie intime de Dieu, de la paternité créatrice de Dieu, la vie intime de la paternité créatrice de Dieu, la vie divine et la vie humaine, qui est la nôtre, sont vraiment dans une totale unité. comme l'eau se mélange à l'eau. N'est-ce pas? L'eau se mélange à de l'eau. C'est extraordinaire. Alors, intérieurement, on a la mémoire de l'eau. En ce moment, il y a la mémoire de l'eau, c'est très à la mode. Or, l'eau, vous savez, bibliquement, c'est le symbole de la vie. Alors, la mémoire de votre eau, c'est la même... C'est ça que ça veut dire dans l'Écriture. L'homme créé a vitalement créé, quant à sa vie, à l'image et ressemblance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a des puissances vitales. La puissance vitale, quelles sont ces puissances vitales qui font qu'il est homme? Je ne vais pas prendre les puissances de qu'il a la même vie qu'une algue. Je m'en fiche complètement. Enfin, je m'en fiche pas. Je m'en fiche pas. Ici, on verra que je m'en fiche pas du tout. Mais là, le fait qu'il ait une vie humaine, il a une vie humaine en ce sens qu'il est créé avec des puissances d'intellection et de vie contemplative, des puissances d'extase, d'amour humain, et une puissance de mise en présence et de mise en présence, de rappel, de présence à présence de la présence vivante de Dieu. Il est image et ressemblance de Dieu, il est contemplation de la vérité, il est extase face à l'autre qu'il aime. Il y a ces trois potentialités spirituelles dans la vie de l'homme qui s'unissent totalement à l'intimité de la vie intérieure de la paternité qui est en lien avec son Fils, qui est en lien avec l'Esprit Saint. Comme c'est fort, ça. Ça, c'est aussi quelque chose de très, très fort. Et c'est évident que c'est quelque chose de très, très fort. Parce que Dieu est vérité, Dieu est amour, Dieu est vie. Voilà les trois aspects. Et nos puissances, donc, sont donc là. Voilà. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Le bon Dieu, l'être premier, le Père de notre vie, donne l'âme, laisse à notre âme la responsabilité de la direction du bateau. C'est plus lui. Il nous a lancés sur la mer. Maintenant, à toi de choisir les vents, le gouvernail, la rame. Et la vie divine nous échappe. Quels sont les choix profonds qui peuvent se faire à partir de là? Alors, ou bien tu dis, ah, la vie divine imbibait totalement les puissances de mon intelligence, les puissances de mon amour, les puissances de ma présence à moi-même dans le point de vue vital et de la lumière. Voilà pour les trois, ce qu'on appelle la memoria dei dans Saint-Augustin, l'intelligence, la volonté. Mais il se trouve que je ne suis qu'une petite cellule. Je ne peux pas, quand bon Dieu m'a abandonné, continuer à le contempler, puisque je n'ai même plus dans mon corps les dispositions organiques pour contempler. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas en relation avec ma mère. Il n'y a pas de concupiscible, il n'y a pas d'irascible, il n'y a pas les organes dans mon corps qui me permettent d'utiliser mon intelligence, d'utiliser ma volonté qui sont pourtant là. Vous voyez le drame? Alors, je suis dans l'absence de toute possibilité de contempler quoi que ce soit et d'aimer qui que ce soit. Donc mes puissances sont anémiées, en attente. Et il ne me reste plus que quoi? Il ne me reste plus que la memoria dei. Il ne me reste plus que ça. Il ne me reste plus que cette memoria dei. Cette memoria dei, c'est-à-dire cette impression de la loi éternelle, de la lumière vivante dans mon corps et mon âme unie, cette trace lumineuse du Créateur vivant dans la lumière, reste là en moi. Mais c'est passif. J'ai reçu cet un. L'objet de l'intelligence, c'est quoi? C'est la vérité. L'objet de l'amour, c'est quoi? C'est le bien. L'objet de la memoria dei, c'est quoi? C'est l'un. Mais la vérité, il faut que j'aille vers elle pendant toute ma vie. L'amour, le bien, il faut que j'aille vers lui par l'amour et la volonté toute ma vie. Mais l'un, je l'ai reçu. Il est là. Cette potentialité-là, j'en suis plus libre. Je l'ai reçu et je suis passivement présent à cet un et à cette absence de l'un. Donc du côté, ma liberté ne peut plus jamais s'exprimer du côté de la passivité spirituelle. Il va falloir qu'elle s'exprime du côté de l'activité spirituelle. La responsabilité, on appelle ça. Des actes libres. Mais pour l'instant, pendant au moins quelque temps, je ne peux pas exercer ni mon intelligence, ni mon amour, ni ma volonté, parce que mon corps, je ne peux l'exercer que si mon corps participe à l'activité spirituelle des puissances de l'âme. C'est ce propre de l'homme. C'est la différence, c'est ce qu'on verra lundi. On verra lundi avec la fameuse tentation de l'ange. Méta-tentation. Qu'est-ce que c'est que la tentation? C'est précisément ça, c'est que le corps participe substantiellement à l'acte de vie contemplative et à l'acte d'amour. C'est la différence qu'il y a entre un homme et un ange. Et si on veut contempler comme un ange et aimer comme un ange, on tombe dans l'antichrist, dans la méta-tentation. Et voyez, alors à ce moment-là, il n'y a plus ça. Alors du coup, je peux effectivement abandonner ces puissances d'intelligence et de volonté, puisqu'elles ne peuvent pas s'exercer, me réfugier dans la passivité de la memoria dei, et toute ma vie opter pour cette passivité et ne plus opter pour la vérité et pour l'amour qui est actif. Donc je vais, ou bien, ou alors, au contraire, je peux réclamer, puisque je ne peux pas agir dans la vie contemplative ni agir dans ma vie unitive d'amour, je peux réclamer, aspirer à la vie divine, à la vie divine, j'aspire à la vie divine, à la grâce, à la vie divine, à la vie spirituelle, ou alors à la passivité, et donc je rentre dans le point de vue psychologique. Ou alors dans le point de vue métapsychologique, puisque vous savez que la passivité poussée jusqu'au bout, c'est le bouddhisme, c'est l'hindouisme, c'est le samadhi sans racine. Voilà les deux grands choix. Le choix de la vacuité, voyez, ou bien le choix de l'actuation spirituelle. Oui.
On pourra rattraper quand même faire une compétence pour consigner les deux aspects, c'est-à-dire que les activités spirituelles peuvent se tourner vers la dimension passive. On peut intégrer la dimension de la mémoire de Dieu, on peut intégrer quand même une marche positive pour l'homme.
Oui, absolument, absolument. Mais ici, je peux faire le choix de la passivité pour elle-même, indépendamment de la recherche de la vérité et de l'amour. Mais si je veux faire pratiquer la vie divine, donc la vie spirituelle, je suis bien obligé, en cherchant la vérité et en cherchant l'amour, de trouver mon énergie d'origine, ma vocation. Ma vocation, je la trouve dans la lumière divine imprimée en moi, dans le point de vue de je suis unifié. La source de ma possibilité d'agir, c'est cette présence de l'un en moi. L'un est source. La memoria dei, c'est le nexus, comme dit saint Thomas d'Aquin, comme dit saint Augustin, est source. Comme le Père est source du Verbe, et le Père est aussi source du Saint-Esprit avec le Verbe. Eh bien, pareil pour la présence de l'un en moi, dans cette puissance qui ne peut plus agir, puisqu'elle a son objet, est au nexus, c'est-à-dire au nexus à la racine, de des énergies actuables, de l'intelligence et de la volonté. C'est pour ça que les deux seules puissances de vie spirituelle qui sont actuées par un exercice actif, c'est l'intelligence et la volonté. Mais il faut retrouver cette memoria dei, c'est-à-dire cette présence vivante du Créateur dans l'unité de mon corps, mon âme et mon esprit, pour rechercher à nouveau la vérité, ce que nous faisons cette année. Ce que nous faisons cette année, c'est un exercice, voyez, de vie intérieure. Passer d'un acte d'adoration métaphysique à un acte d'adoration à la fois métaphysique et religieux, qui prenne toutes les potentialités de ce qui existe dans notre vie. Memoria Dei, oui. Non, pas principe. Le point de vue de l'être. Bon, je veux bien m'attarder un petit peu ici. Le point de vue de l'être, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Donc, le point de vue de l'être, on peut induire le principe qui, de l'intérieur, fait que l'être existe, et on appelle ça l'ousia. Bon, et là, je vois qu'il y a quelque chose qui finalise le point de vue de l'être, de l'intérieur même de l'être, c'est l'énergeia. C'est-à-dire, on a vu ça donc l'année dernière, l'énergeia, l'acte. Et je regarde comment ce principe à l'intérieur même de l'être en tant qu'être se réalise dans l'homme, ou dans tout ce qui existe en acte actuellement, et je m'aperçois que cet acte se réalise selon cinq modalités. D'abord, l'essai, c'est l'actuation de l'être. Deuxièmement, le bien, il y a quelque chose de parfait dans le point de vue de l'existence actuelle. Le point de vue du vrai, il y a quelque chose de solide, de vrai. Il y a quelque chose de vital et permanent. Et il y a quelque chose qui relève du devenir substantiel, c'est du devenir substantiel. Donc voilà. Alors, c'est sûr qu'il est absolument évident que les modalités de l'être peuvent se rattacher à ce qu'on appelle, parce que c'est ce lien ici qu'on voit entre l'être premier et l'être créé, l'être participé qui est le nôtre, à ces cinq modalités. Mais dans l'être incréé, l'essai, c'est la réalité suprême, c'est ce que dit Dieu à Sainte Catherine de Sienne en disant « Je suis et toi tu n'es pas ». Et c'est l'amour parfait, c'est le bien en soi, c'est le vrai en soi, c'est le verbe, c'est la lumière, née de la lumière, c'est la vérité, c'est l'un en soi, n'est-ce pas ? Et puis enfin, c'est celui qui est le tout autre, le transcendant. Bon, le fait, alors tu mets en relation les transcendantaux qui sont ici avec les modalités de l'acte, et alors à ce moment-là, tu t'aperçois que le point de vue vital et le point de vue de l'un sont en corrélation. Le point de vue donc du vrai sont identiques, du bien sont identiques. C'est la vérité qui actue notre intelligence, c'est l'amour, le bien qui actue notre volonté, et donc c'est l'un qui actue notre origine vitale et la memoria dei. L'un est l'objet de la memoria dei. Mais c'est par un biais, alors je m'excuse, mais pour vous n'avez rien compris, mais c'est pour les profs de philosophie, pour qu'ils puissent communiquer ça à Paris. Hein. Donc, voilà. Donc, si vous avez compris, j'espère, vous avez compris. Ce que nous cherchons ici, c'est à retrouver ce que nous avons déjà, c'est l'un. Tandis que la vérité, nous ne l'avons pas. L'amour, le bien, nous ne l'avons pas. Nous allons vers la vérité, nous cherchons la vérité, nous contemplons la vérité pour l'assimiler et en vivre. Nous cherchons celui qui est notre bien, qui est tout autre, pour être attiré par lui, pris par lui, déterminé par lui. Vous voyez ? Tandis que l'un, ça nous est donné dès le départ. Je n'ai pas à l'actuer. C'est là. C'est pour ça que ce n'est pas une puissance libre. C'est une puissance passive. Donc, il ne faut pas dire puissance, justement, parce que si là son objet est en acte. Donc, ce n'est pas une puissance. Et... Alors, vous voyez, dans le point de vue de la passivité, le choix qu'on peut faire ici. Maintenant, voyons ici le point de vue... de l'esprit. Oh, que c'est bien ça. Alors, le point de vue de l'esprit, c'est l'intelligence contemplative. Le verbe illumine tout homme à l'instant où il vient dans ce monde. Voyez, cette espèce de contemplation que Saint Jean dit... Le verbe de Dieu, deuxième personne à très sensé, illumine tout homme. Illumine tout quoi ? Son corps ? Illumine sa peau ? Illumine son intelligence. Le verbe n'illumine que l'intelligence, et de l'intérieur, en la concevant, en se concevant lui-même dans la création même de cette intelligence. Vous voyez ? C'est dit explicitement. Et il n'y a pas que lui qui le dit, n'est-ce pas ? Les philosophes aussi disent c'est le verbe qui illumine l'origine de l'homme. C'est pas seulement théologique, ça, hein? C'est pas seulement de la révélation. C'est une intuition presque universelle, parce qu'il ne peut pas y avoir. C'est tout le problème de l'intelligence. Pendant 7 ou 8 siècles, on a, même 12, on a, même 17, on a réfléchi sur cette question de l'intelligence. Mais d'où ça vient, cette histoire d'intellect agent, d'intellect possible? Qu'est-ce qu'on a discuté là-dessus? Le verbe de Dieu. Le verbe de Dieu. Alors, ça y est, des choses de Saint-Augustin là-dessus, vraiment, complètement admirables. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une simplicité totale. Nous, le Verbe illumine notre intelligence au départ, dans une totale, il y a marqué simplicité, mais marquons simplicité, on ne va pas chercher là, midi à 14h. Notre intelligence ne se nourrit pas de son acte personnel, il se nourrit de l'acte de contemplation de Dieu qui crée. C'est ça qui nourrit notre intelligence. Notre intelligence vit ça, à ce moment-là. Elle ne peut pas vivre par elle-même, notre intelligence, à ce moment-là. Elle n'a pas les organes correspondants, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de conceptualisation, il n'y a pas de verbalisation, etc. Hein? Il n'y a pas d'assimilation dans l'intelligence à travers les sens externes, il n'y a pas de sens externe. Donc humainement, on ne fait pas un acte humain, mais néanmoins on a un objet qui vient faire vivre l'intelligence qui assimile cet objet. C'est ça, c'est cette présence créatrice du Verbe de Dieu qui illumine tout homme venant en ce monde. Voyez. Alors tout ça se passe dans une simplicité, parce que quand vous contemplez quelque chose, vous faites unité avec lui et tout devient simple, c'est pas compliqué du tout. Tout est simple, vous contemplez la simplicité même des réalités. Et la première réalité qui est le Verbe de Dieu, à travers qui vous êtes créé vous-même, et tout ce qui, etc. Vous voyez ? Donc voilà cette expérience-là très très forte qui fait que vous êtes commencé dans une vie contemplative très très forte, qui n'est pas la vision béatifique. Hein. Qui n'est pas la vision béatifique. Oh, oui. Oh, c'est vrai, tu as raison. Alors, aussitôt que cette simplicité disparaît, aussitôt que le lien qu'il y a entre, on va prendre autrement, le point de vue de l'âme spirituelle, intellectuelle et contemplative est en lien très très fort avec le corps. Et comme ce lien très très fort avec le corps est si fort qu'il peut avoir intérieurement la contemplation initiale qui est la sienne, voyez, à travers le corps, lorsque Dieu disparaît, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'aspect intellectif n'habite plus le corps. Premièrement. Deuxièmement, il se retrouve tout seul, sans possibilité de faire un acte d'intelligence contemplative. Par conséquent, qu'est-ce qui lui reste ? Ah, il lui reste un choix. Alors, il se trouve dans le désir de retrouver cette vie contemplative qu'il ne peut pas avoir. C'est pour ça que les âmes contemplatives sont des êtres de désir. Regardez Saint Thérèse d'Enfant Jésus, don d'intelligence. Saint Thérèse de Lisieux. Don d'intelligence, c'est une âme de désir. Se retrouver dans les mains du Père qui origine la contemplation. Le désir. Ou alors, puisqu'il ne reste plus rien, plus de possibilité de contempler, plus de possibilité d'aimer, plus rien, plus de lumière à contempler, plus d'objets à aimer, vacuité. Voilà. Là, ici, ce n'est plus de l'hindouisme. Ici, vous voyez, c'est vacuité, c'est les Tibétains, vous voyez, les lamas. La vacuité, chercher la vacuité. Je vais choisir la vacuité. Et dans le point de vue spirituel, qu'est-ce que je vais choisir? Si j'ai fait un choix négatif de vacuité en disant je choisis la vacuité, le vide, ou bien le désir, ou bien le vide. Ça revient au même. Il y en a un qui est responsable et l'autre qui est pécabineux. On est dans le même état. Mais je peux faire un choix passif de l'un ou de l'autre. Alors à ce moment-là, le vide, c'est quoi? Vous voyez, ma vie spirituelle consiste à me répandre dans l'anonymat du néant, dans l'anonymat de l'anatement, dans, vous voyez, dans la vacuité. Ma prière contemplative, ah, je suis un contemplatif, vous savez, mon père, moi. Hein. Vous ne m'en compterez pas, hein. Regardez, position du lotus, délovage du kundalini, ouverture des centres corporels, vide total, vide absolu, rien, vide, honnêtement, voilà, ça y est. C'est le refus de l'origine, ça. Refus du verbe, refus de l'intelligence, refus de la volonté, refus de la vie spirituelle. Et du coup, quand je mets toutes mes billes dans la vacuité, je rentre dans le métapsychique. Les énergies. C'est ça la vie contemplative. Alors oui, je passe par un tunnel noir, et qu'est-ce que je vois? De la lumière, de l'amour. Oh là, la vie contemplative, imbécile. Imbécile, mon Dieu. Métapsychique pur. Et tu échappes à la vie spirituelle, tu échappes à ton intelligence. Vous voyez, l'irresponsabilité majeure de l'homme est là. Le péché contre l'esprit est là. contre l'esprit de l'homme. C'est le péché contre l'esprit de Dieu qui sera jamais pardonné. Mais le péché contre l'esprit de l'homme est là. Le nouvel âge est là. L'antichrist est là. Vous avez ensuite... c'est quoi ensuite? Ah, oh, l'artiste qui est en nous, le choix de la splendeur. Dans le choix de la splendeur, je crois que c'est assez facile. Donc ici, moi j'avais mis sur mon tableau, ici je vois, la fois dernière je vous avais fait choix du... Oui, choix du désir ou choix du vide, choix du chaos. Ouais, ça revient au même. Ça revient au même. C'est chaotique, vous comprenez? C'est l'anonymat. C'est chaotique. Oh là là, il me reste donc deux colonnes. Hein? Ah, si, d'accord, j'ai fini. Alors, oui, vite. Alors, il me reste, c'est pas possible, je suis vraiment nul. C'est à partir du néant que Dieu crée. À partir de rien que Dieu crée. Vous savez? L'acte créateur, le créateur, le Créateur et la créature sont un. La puissance créatrice et la puissance créée sont un. Donc quand la puissance créatrice laisse la place à celui qui est puissance créée, eh bien lui, il aspire à retrouver cette puissance créatrice. Vous voyez cette nostalgie extrêmement forte qui est en nous. Vous voyez, extrêmement forte. Alors, évidemment, bon, alors qu'est-ce que je vais pouvoir regarder? Étant donné que c'est à partir de rien que Dieu m'a créé, le choix que je peux faire, c'est le choix du néant, puisque c'est à partir de rien qu'il m'a créé, pour essayer de retrouver ce qu'il y a juste avant cette puissance créatrice, dont j'ai la nostalgie, qui est arrivée à partir du néant. Alors, je vais rechoisir, je vais faire le choix du néant, pour être semblable à Dieu comme créateur, ou bien être créateur comme complément de l'acte créateur de Dieu, pour m'ajuster, le choix de la justice, le choix de l'ajustement. Je m'ajuste. C'est ça, le juste. Celui qui transforme le monde, c'est le juste. Saint Joseph, c'est le travailleur, c'est l'artiste suprême. Il a contribué à la création du corps du Fils de Dieu. Et à la mise en place du corps mystique de l'Église. Ça, c'est l'artiste suprême. Vous voyez, il y a quelque chose, le juste, l'ajustement. Ou bien tu choisis la justice, l'ajustement, ou bien tu choisis le néant par nostalgie pour être comme le Créateur, parce que tu as la nostalgie, cette puissance créatrice d'origine. Vous voyez, ça, je crois que c'est assez facile à comprendre. Il y a enfin le dernier. Alors, le dernier, c'est quoi? C'est le point de vue du corps, je vous l'ai dit. Le corps cosmique, le corps de l'univers et mon petit corps à moi, humain, sont un. Sont un, et aussitôt, parce que à cause de la présence créatrice de Dieu à travers tout ce qui existe, et par conséquent, mon corps, j'allais dire, est en réceptivité, en co-naturalité, en relation, en harmonie avec tous les corps. Vous voyez, c'est ça qui fait que je suis naturel dans la nature, que je ne suis pas en disharmonie, et que je souffre de la nature, et que du coup, je rentre par la souffrance dans l'unité avec la nature. Vous voyez, alors si... Alors du coup, vous voyez, il y a une espèce de limpidité, une agilité, une luminosité du corps, comment est-ce qu'on appelle ça, vite, aidez-moi, une impassibilité, une satiété, on est rempli de tous les autres, de la présence de tous les autres corps. On est aussi l'agilité, la subtilité. Vous voyez, qui fait que du coup, il y a comme une espèce de participation à l'omniprésence du Créateur dans l'univers, et tout ça, ça disparaît. Ça disparaît. Alors du coup, les deux choix qui sont possibles, tu sais que l'homme est au-dessus du cosmos, l'homme est au-dessus de son propre corps. L'homme est au-dessus. Donc tu choisis l'homme. Ou bien tu fais le choix de l'homme, ou bien tu fais le choix de l'homme dans ce qu'il a de subtil, d'agile, de transparent. C'est ça qu'on appelle l'innocence divine. L'innocence divine, ça c'est positif, vous voyez. Ou bien je fais le choix de cette innocence divine d'origine, retrouver cette innocence d'origine par laquelle je suis en pleine nature, vous voyez, je suis dans la 7e et 6e demeure de ma maison cathédrale de cristal, vous voyez, ou bien alors je choisis la nuit. Il y a des gens qui aiment être toujours dans l'obscurité. Ah non, non, je ne veux pas voir ça. Non, non, je ne veux pas comprendre. Non, je ne veux pas savoir. Non, non, je ne veux pas. Je veux pas y voir clair. Non, toujours dans l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la blessure de l'innocence divine. Et du coup, ils ne vivent qu'en fonction de leur blessure. Et du coup, ils ne vivent pas cette solidarité avec la nature. Ils ne comprennent pas que la souffrance permet à l'innocence divine d'être triomphante. Et à cause de la blessure de l'innocence divine, cette souffrance, ils n'en veulent pas. Ils se réduisent à l'intérieur même de cette souffrance pour qu'il n'y ait pas le triomphe de la nature dans l'unité de l'homme et le règne de l'homme sur le monde, le règne de leur humanité. Et donc, là, vous voyez, la fameuse dignité du corps de l'homme, le choix de l'homme s'est perdu. Retrouver le choix de l'homme à travers l'innocence divine qui triomphe. Et cette recherche du triomphe, bien sûr, vous le savez, elle se trouve où? Dans le corps du Christ.